Jules Verne, Le village aérien, chapitre 6. Toujours en direction du sud-ouest. Le lendemain, à la date du 11 mars, parfaitement remis des fatigues de la veille, John Cort, Max Huber, Camis, Langa se disposèrent à braver celle de cette seconde journée de marche. Quittant l'abri du cotonnier, ils firent le tour de la clairière, salués par des myriades d'oiseaux qui remplissaient l'espace de trilles assourdissants et de points d'orgue à rendre jaloux les patti et autres virtuoses de la musique italienne. Avant de se mettre en route, la sagesse commandait de faire un premier repas. Il se composa uniquement de la viande froide d'antilope, de l'eau d'un ruisseau qui serpentait sur la gauche et auquel fut remplie la gourde du Fort Loper. Le début de l'étape se fit à droite, sous les ramures que perçaient déjà les premiers rayons du soleil, dont la position fut relevée avec soin. Évidemment, ce quartier de la forêt devait être fréquenté par de puissants quadrupèdes. Les passés s'y multipliaient dans tous les sens. Et de fait, au cours de la matinée, on aperçut un certain nombre de buffles, et même deux rhinocéros qui se tenaient à distance. Comme il n'était point d'humeur batailleuse, sans doute, il n'y eut pas lieu de dépenser les cartouches à repousser une attaque. La petite troupe ne s'arrêta que vers midi, ayant franchi une bonne douzaine de kilomètres. En cet endroit, John Cort put abattre une couple d'outardes, de l'espèce des corans, qui vivent dans les bois, volatiles au plumage d'un noir de jais sous le ventre. Leur chair, très estimée des indigènes, inspira cette fois la même estime à un Américain et à un Français au repas de midi. « Je demande, avait toutefois dit Max Huber, que l'on substitue le rôti aux grillades. »« Rien de plus facile, s'était hâté de répondre le Fort Loper. Et une des outardes, plumée, vidée, embrochée d'une baguette, rôti à point devant une flamme vive, pétillante, fut dévorée à belles dents. Camis et ses compagnons se remirent en route dans des conditions plus pénibles que la veille. À descendre au sud-ouest, les passés se présentaient moins fréquemment. Il fallait se frayer un chemin entre les broussailles, aussi drues que les lianes dont les cordons durent être tranchés au couteau. La pluie vint à tomber pendant plusieurs heures, une pluie assez abondante. Mais telle était l'épaisseur des frondaisons que c'est à peine si le sol en recevait quelques gouttes. Toutefois, au milieu d'une clairière, Camis put remplir la gourde presque vidée déjà, et il y eut lieu de s'en féliciter. En vain, le Fort Loper avait-il cherché quelques filets liquides sous les herbes. De là, probablement, la rareté des animaux et des sentiers praticables. « Cela n'annonce guère la proximité d'un cours d'eau, » déclara John Cort, lorsque l'on s'installa pour la halte du soir. D'où cette conséquence s'imposait, c'est que le rio qui coulait non loin du tertre, au Tamarin, ne faisait que contourner la forêt. Néanmoins, la direction, prise jusqu'alors, ne devrait pas être modifiée, et avec d'autant plus de raison qu'elle aboutirait au bassin de l'Oubangui. « D'ailleurs, » observa Camis, à défaut du cours d'eau que nous avons aperçu avant-hier au campement, ne peut-il s'en rencontrer un autre dans cette direction ? La nuit du 11 au 12 mars ne s'écoula pas entre les racines d'un cotonnier. Ce fut au pied d'un arbre non moins gigantesque, un bombax, dont le tronc symétrique s'élevait tout d'un jet, à la hauteur d'une centaine de pieds au-dessus de l'épais tapis du sol. La surveillance établie comme d'habitude, le sommeil n'allait être troublé que par quelques lointains beuglements de buffles et de rhinocéros. Il n'était pas à craindre que le rugissement du lion se mêlât à ce concert nocturne. Ces redoutables fauves n'habitent guère les forêts de l'Afrique centrale. Ils sont les hôtes des régions plus élevées en latitude, soit au-delà du Congo vers le sud, soit sur la limite du Soudan vers le nord, dans le voisinage du Sahara. Les épais fourrés ne conviennent pas au caractère capricieux. À l'allure indépendante du roi des animaux, roi d'autorité et non roi constitutionnel. Il lui faut de plus grands espaces, des plaines inondées de soleil, où il puisse bondir en toute liberté. Si les rugissements ne se firent pas entendre, il en fut de même des grognements de l'hippopotame, ce qui était regrettable, convient-il de noter, car la présence de ces mammifères amphibies eût indiqué la proximité d'un cours d'eau. Le lendemain, départ dès l'aube par temps sombre, et coup de carabine de Max Hubert, qui abattit une antilope de la taille d'un âne, ou plus exactement d'un zèbre, type placé entre l'âne et le cheval. C'était un oryx, à robe de couleur vineuse présentant quelques zébrures régulièrement dessinées. L'oryx est rayé d'une bande noire depuis la nuque jusqu'à l'arrière-train, ornée de taches noires aux jambes, dont le poil est blanchâtre, agrémenté d'une queue noire qui balaye largement le sol, échantillonné d'un bouquet de fourrure noire à sa gorge. Bel animal aux cornes longues d'un mètre, garni d'une trentaine d'anneaux à leur base, s'incurvant avec élégance et présentant une symétrie de forme dont la nature donne peu d'exemples. Chez l'oryx, la corne est une arme défensive qui, dans les contrées du nord et du midi de l'Afrique, lui permet de résister même à l'attaque du lion. Mais ce jour-là, l'animal visé par le chasseur ne put échapper à la balle qui lui fut joliment envoyée, et, le cœur traversé, tomba du premier coup. C'était l'alimentation assurée pour plusieurs jours. Camis s'occupa de dépecer l'oryx, travail qui prit une heure. Puis, se partageant cette charge dont Langa réclama sa part, ils commencèrent une nouvelle étape. Hé, ma foi, dit John Cort, on se procure par ici de la viande à bon marché, puisqu'elle ne coûte qu'une cartouche. À la condition d'être adroit, répliqua le forlopeur. Et heureux, surtout, ajouta Max Hubert, plus modeste que ne le sont d'habitude ses confrères en haute vénerie. Mais jusqu'alors, si Camis et ses compagnons avaient pu épargner leur poudre et économiser leur plomb, s'ils ne les avaient employés qu'à tuer le gibier, la journée ne devait pas finir sans que les carabines eussent à servir pour la défensive. Pendant un bon kilomètre, le forlopeur crut même qu'il aurait à repousser l'attaque d'une troupe de singes. Cette troupe se démenait à droite et à gauche d'une longue passée, les uns sautant entre les branches d'arbre en arbre, les autres gambadant et franchissant les fourrés par des bonds prodigieux à faire envie aux plus agiles gymnastes. Là se montraient plusieurs espèces de quadrumanes de haute stature, des cynocéphales de trois couleurs, jaunes comme des Arabes, rouges comme des Indiens du Far West, noirs comme des indigènes de la Cafrerie, et qui sont redoutables à certains fauves. Là grimaçaient divers types de cécolobes, les véritables dandys, les petits maîtres les plus élégants de la race simienne, sans cesse occupés à brosser, à lisser de la main cette pèlerine blanche qui leur a valu le nom de colobes à camaille. Cependant, cette escorte qui s'était rassemblée, après le repas de midi, disparut vers 2 heures alors que Max Hubert, John Cort, Camis et Langa arpentaient un assez large sentier qui se poursuivait à perte de vue. S'ils avaient lieu de se féliciter des avantages de cette route aisément praticable, ils eurent à regretter la rencontre des animaux qui la fréquentaient. C'étaient 2 rhinocéros, dont le ronflement prolongé retentit un peu avant 4 heures à courte distance. Camis ne s'y trompa point et ordonna à ses compagnons de s'arrêter. « Mauvaise bête, ces rhinocéros » dit-il en ramenant la carabine qu'il portait en bandoulière. « Très mauvaise, » répliqua Max Hubert. Et pourtant, ce ne sont que des herbivores. Qui ont la vie dure, ajouta Camis. Que devons-nous faire? Demanda John Cort. Essayez de passer sans être vu, conseilla Camis, ou tout au moins nous cacher sur le passage de ces malfaisantes bêtes. Peut-être ne nous apercevront-elles pas. Néanmoins, soyons prêts à tirer, si nous sommes découverts, car elles fonceront sur nous. Les carabines furent visitées, les cartouches disposées de manière à être renouvelées rapidement. Puis, s'élançant hors du sentier, tous 4 disparurent derrière les épaisses broussailles qui le bordaient à droite. 5 minutes après, les mugissements s'étant accrus, apparurent les monstrueux pachydermes, de l'espèce Ketloa, presque dépourvus de poils. Ils filaient grand trot, la tête haute, la queue enroulée sur leur croupe. C'étaient des animaux longs de près de 4 mètres, oreilles droites, jambes courtes et torses, museaux tronqués armés d'une seule corne, capables de formidables coups. Et telle est la dureté de leurs mâchoires qu'ils broient impunément des cactus aux rudes piquants comme les ânes mangent des chardons. Le couple fit brusquement halte. Camis et les autres ne doutaient pas qu'ils ne fussent dépistés. L'un des rhinocéros, un monstre à peau rugueuse et sèche, s'approcha des broussailles. Max Hubert le mit en joue. « Ne tirez pas à la culotte, à la tête !» lui cria le fort Loper. Une détonation, puis deux, puis trois, retentirent. Les balles pénétraient à peine ces épaisses carapaces, et ce furent autant de coups en pure perte. Les détonations ne les intimidèrent, ni ne les arrêtèrent, et ils se disposèrent à franchir le fourré. Il était évident que cet amas de ronces et de broussailles ne pourrait opposer un obstacle à de si puissantes bêtes. En un instant, tout serait ravagé, saccagé, écrasé. Après avoir échappé aux éléphants de la plaine, Camis et ses compagnons échapperaient-ils aux rhinocéros de la grande forêt? Que les pachydermes aient le nez en trompe ou le nez en corne, ils s'égalent en vigueur. Et ici, il n'y aurait pas cette lisière d'arbres qui avait arrêté les éléphants lancés à fond de train. Si le Fort Loper, John Cort, Max Hubert, Langa, tentaient de s'enfuir, ils seraient poursuivis, ils seraient atteints. Les réseaux de lianes retarderaient leur course, alors que les rhinocéros passeraient comme une avalanche. Cependant, parmi les arbres de ce fourré, un baobab énorme pouvait offrir un refuge si l'on parvenait à se hisser jusqu'à ses premières branches. Ce serait renouveler la manœuvre exécutée au tertre d'état marin, dont l'issue avait été funeste d'ailleurs. Et y avait-il lieu de croire qu'elle aurait plus de succès? Peut-être, car le baobab était de taille et de grosseur à résister aux efforts des rhinocéros. Il est vrai, sa fourche ne s'ouvrait qu'à une cinquantaine de pieds au-dessus du sol. Et le tronc, renflé en forme de courge, ne présentait aucune saillie à laquelle la main pût s'accrocher, ni le pied trouver un point d'appui. Le Fort Loper avait compris qu'il n'y avait pas à essayer d'atteindre cette fourche. Aussi, Max Hubert et John Cort attendaient-ils qu'il prît un parti. En ce moment, le fouillis des broussailles en bordure du sentier remua, et une grosse tête apparut. Un quatrième coup de carabine éclata. John Cort ne fut pas plus heureux que Max Hubert. La balle, pénétrante au défaut de l'épaule, ne provoqua qu'un hurlement plus terrible de l'animal, dont l'irritation s'accrut avec la douleur. Il ne recula pas, au contraire, et d'un élan prodigieux se précipita contre le fourré, tandis que l'autre rhinocéros, à peine effleuré d'une balle de Camis, se préparait à le suivre. Ni Max Hubert, ni John Cort, ni le Fort Loper n'eurent le temps de recharger leurs armes. Fuir en directions diverses, s'échapper sous le massif, il était trop tard. L'instinct de la conservation les poussa tous trois, avec Langa, à se réfugier derrière le tronc du baobab, qui ne mesurait pas moins de 6 mètres périphériques à la base. Mais lorsque le premier animal contournerait l'arbre, lorsque le second se joindrait à lui, comment éviter leur double attaque? « Diable !» fit Max Hubert. « Dieu, plutôt !» s'écria John Cort. Et assurément, il fallait renoncer à tout espoir de salut, si la Providence ne s'en mêlait pas. Sous un choc d'une effroyable violence, le baobab trembla jusque dans ses racines à faire croire qu'il allait être arraché du sol. Le rhinocéros, emporté dans son élan formidable, venait d'être arrêté soudain. À un endroit où s'entr'ouvrait l'écorce du baobab, sa corne, entrée comme le coin d'un bûcheron, s'y était enfoncée d'un pied. En vain fit-il les plus violents efforts pour la retirer. Même en s'arc-boutant sur ses courtes pattes, il ne put y réussir. L'autre, qui saccageait le fourré furieusement, s'arrêta, et ce qu'était leur fureur à tous deux, on ne saurait se l'imaginer. Camis, se glissant alors autour de l'arbre, après avoir rampé au ras des racines, essaya de voir ce qui se passait. « En fuite ! En fuite ! » cria-t-il presque aussitôt. On le comprit plus qu'on ne l'entendit. Sans demander d'explication, Max Hubert et John Cort, entraînant Langa, détalèrent entre les hautes herbes. À leur extrême surprise, ils n'étaient pas poursuivis par les rhinocéros, et ce ne fut qu'après 5 minutes d'une course essoufflante que, sur un signe du Fort Loper, ils firent halte. « Qu'est-il donc arrivé ?» questionna John Cort, dès qu'il eut repris haleine. « Le rhinocéros n'a pu retirer sa corne du tronc de l'arbre, » dit Camis. « Tudieu ! » s'écria Max Hubert. « C'est le Milon de Crotone des rhinocéros !»« Et il finira comme ce héros des Jeux Olympiques !» ajouta John Cort. Camis, se souciant peu de savoir ce qu'était ce célèbre athlète de l'Antiquité, se contenta de murmurer. « Enfin, sain et sauf, mais au prix de 4 ou 5 cartouches brûlées en pure perte. C'est d'autant plus regrettable que cette bête-là, ça se mange, si je suis bien informé, dit Max Hubert. En effet, affirma Camis, quoique sa chair ait un fort goût de musc, nous laisserons l'animal où il est. Se décorner tout à son aise, acheva Max Hubert. Il n'eût pas été prudent de retourner au baobab. Les mugissements des deux rhinocéros retentissaient toujours sous la futaie. Après un détour qui les ramena au sentier, tous quatre reprirent leur marche. Vers 6 heures, la halte fut organisée au pied d'une énorme roche. Le jour qui suivit n'amena aucun incident. Les difficultés de route ne s'accrurent pas, et une 30aine de kilomètres furent franchis dans la direction du sud-ouest. Quant au cours d'eau si impatiemment réclamé par Max Hubert, si affirmativement annoncé par Camis, il ne se montrait pas. Ce soir-là, aussitôt achevé, un repas dont une antilope, dite antilope des brousses, fournit le menu peu varié, on s'abandonna au repos. Par malheur, cette dizaine d'heures de sommeil fut troublée par le vol de milliers de chauves-souris de petite et de grande taille, dont le campement ne fut débarrassé qu'au lever du jour. Trop de ces harpies, beaucoup trop, s'écria Max Hubert, lorsqu'il se remit sur pied, tout bâillant encore après une si mauvaise nuit. Il ne faut pas se plaindre, dit le forlopeur. Et pourquoi? Parce que mieux vaut avoir affaire aux chauves-souris qu'aux moustiques, et ceux-ci nous ont épargnés jusqu'ici. Ce qui serait le mieux, Camis, ce serait d'éviter les uns comme les autres. Les moustiques, nous ne les éviterons pas, monsieur Max. Et quand devons-nous être dévorés par ces abominables insectes? Aux approches d'un rio. Un rio! S'écria Max Hubert. Mais après avoir cru au rio, Camis, il ne m'est plus possible d'y croire. Vous avez tort, monsieur Max, et peut-être n'est-il guère éloigné. Le forlopeur, en effet, avait déjà remarqué quelques modifications dans la nature du sol, et dès 3 heures de l'après-midi, son observation tendit à se confirmer. Ce quartier de la forêt devenait sensiblement marécageux. Ça et là se creusaient des flaques hérissées d'herbes aquatiques. On put même abattre des gogasses, sortes de canards sauvages dont la présence indiquait la proximité d'un cours d'eau. Également, à mesure que le soleil déclinait à l'horizon, le coassement des grenouilles se faisait entendre. « Ou je me trompe fort, ou le pays des moustiques n'est pas loin, » dit le forlopeur. Pendant le reste de l'étape, la marche s'effectua sur un terrain difficile, embarrassé de ces phanérogames innombrables dont un climat humide et chaud favorise le développement. Les arbres, plus espacés, étaient moins tendus de lianes. Max Hubert et John Cort ne pouvaient méconnaître les changements que présentait cette partie de la forêt en s'étendant vers le sud-ouest. Mais en dépit des pronostics de Camis, le regard en cette direction ne saisissait encore aucun miroitement d'eau courante. Toutefois, en même temps que s'accusait la pente du sol, les fondrières devenaient plus nombreuses. Il fallait une extrême attention pour ne point s'y enliser. Et puis, à s'en retirer, on ne le ferait pas sans piqûre. Des milliers de sangsues fourmillaient dans les trous, et à leur surface couraient des myriapodes gigantesques, répugnants, articulés de couleur noirâtre, aux pattes rouges, bien faits pour provoquer un insurmontable dégoût. En revanche, quel régal pour les yeux ces innombrables papillons aux teintes chatoyantes, ces gracieuses libellules dont tant d'écureuils, de civettes, de bengalis, de veuves, de genettes, de martins pêcheurs, qui se montraient sur le bord des flaques, devaient faire une consommation prodigieuse. Le forlopeur remarqua en outre que non seulement les guêpes, mais encore les mouches tsetse abondaient sur les buissons. Heureusement, s'il faut se préserver de l'aiguillon des premières, il n'y a pas à se préoccuper de la morsure des secondes. Leur venin n'est mortel qu'aux chevaux, aux chameaux, aux chiens, non à l'homme, pas plus qu'aux bêtes sauvages. La petite troupe descendit ainsi vers le sud-ouest jusqu'à 6h30 du soir, étape à la fois longue et fatigante. Déjà, Camis s'occupait de choisir un bon emplacement de halte pour la nuit, lorsque Max Hubert et John Cort furent distraits par les cris de Langa. Selon son habitude, le jeune garçon s'était porté en avant, furetant de côté et d'autre, quand on l'entendit appeler à toute voix. Était-il aux prises avec quelque fauve ? John Cort et Max Hubert coururent dans sa direction, prêts à faire feu. Ils furent bientôt rassurés. Monté sur un énorme tronc abattu, tendant sa main vers une large clairière, Langa répétait de sa voix aiguë « Le Rio ! Le Rio !» Camis venait de les rejoindre, et John Cort de lui dire simplement « Le cours d'eau demandé !» À un demi-kilomètre, sur un large espace déboisé, serpentait une limpide rivière où se reflétaient les derniers rayons du soleil. « C'est là qu'il faut camper, à mon avis, » proposa John Cort. « Oui, là, » approuva le forlopeur, « et soyez sûr que ce rio nous conduira jusqu'à Lubangi. » En effet, il ne serait pas difficile d'établir un radeau et de s'abandonner au courant de cette rivière. Il y eut, avant d'atteindre sa rive, à franchir un terrain très marécageux. Le crépuscule n'ayant qu'une très courte durée en ces contrées équatoriales, l'obscurité était déjà profonde lorsque le forlopeur et ses compagnons s'arrêtèrent sur une berge assez élevée. En cet endroit, les arbres étaient rares et présentaient des masses plus épaisses en amont et en aval. Quant à la largeur de la rivière, John Cort crut pouvoir l'évaluer à une quarantaine de mètres. Ce n'était donc pas un simple ruisseau, mais un affluent d'une certaine importance dont le courant ne semblait pas très rapide. Attendre au lendemain pour se rendre compte de la situation, c'est ce que la raison indiquait. Le plus pressé étant de trouver un abri sec afin d'y passer la nuit. Camis découvrit à propos une anfractuosité rocheuse, sorte de grotte évidée dans le calcaire de la berge, qui suffirait à les contenir tous quatre. On décida d'abord de souper des restes du gibier grillé. De cette façon, il ne serait pas nécessaire d'allumer un feu dont l'éclat aurait pu provoquer l'approche des animaux. Crocodiles et hippopotames abondent dans les cours d'eau de l'Afrique. S'il fréquentait cette rivière, ce qui était probable, autant ne pas avoir à se défendre contre une attaque nocturne. Il est vrai, un foyer entretenu à l'ouverture de la grotte, donnant force fumée, aurait dissipé la nuée des moustiques qui pullulaient au pied de la berge. Mais entre deux inconvénients, mieux valait choisir le moindre et braver plutôt l'aiguillon des maringouins et autres incommodes insectes que l'énorme mâchoire des alligators. Pour les premières heures, John Cort se tint en surveillance à l'orifice de l'anfractuosité, tandis que ses compagnons dormaient d'un gros sommeil, en dépit du bourdonnement des moustiques. Pendant sa faction, s'il ne vit rien de suspect, du moins à plusieurs reprises crut-il entendre un mot qui semblait articulé par des lèvres humaines sur un ton plaintif. Et ce mot, c'était celui de Ngora, lequel signifie « mère » en langue indigène.